30 minutes chrono, l'émission sportive de Divergence FM, c'est le samedi de 19h30 à 20h en 30 minutes chrono. Alors bonsoir nos amis sportifs, cette émission va être consacrée à un sport qui fait du bien à notre cher pays, la France, le handball. Alors sommaire. La chronique de la Babal Carré va revenir sur ce que le Qatar est capable de faire avec rien ou presque. Notre émission sera consacrée donc au handball, sport allemand, ne l'oubliez pas, mais aussi désormais qatarien. En effet, avec rien, les richissimes émirs du golfe persique ont réussi à faire de leur équipe un vice-champion du monde. Money makes the world going round, comme dit la chanson. L'invité, alors bonsoir.
Bonsoir.
Alors j'ai le plaisir donc d'avoir un invité, toujours dans la rubrique handball, puisque cette émission est consacrée au handball. Pour célébrer notre magnifique 5e étoile de champion of the world, j'ai le plaisir de recevoir un arbitre, membre du célèbre MUC. Et oui, il en faut pour que la Babal tourne sans problème. Dario González, c'est comme ça qu'on dit ?
C'est ça, tout à fait.
Alors on verra aussi, on parlera un petit peu de vous, qui vous êtes, où vous habitez, d'où vous venez. Et vous allez nous parler de votre sport, bien sûr, et du rôle aussi parfois ingrat d'arbitre. C'est pas facile, on aura l'occasion de voir ce que c'est. Parce que même sur les petits terrains de hand, des fois, ça chauffe.
Effectivement, oui.
Ouais. Donc, on verra ça ensemble tout à l'heure avec Dario. Et puis enfin, on va terminer cette émission 100% handball avec un débriefing de ce championnat du monde qui vit quelques surprises et pas seulement la deuxième place du Qatar. Chronique de la Babal Carré. Ainsi donc, pour la toute première fois de l'histoire de ce sport, la médaille d'argent du handball au championnat du monde revient à un minuscule petit pays du golfe persique, disons très ambitieux. Sauf erreur de ma part, les podiums de toutes les compétitions internationales ont été trustés toujours par l'Europe, à l'exception d'une médaille de bronze pour les kamikazes sud-coréens. Alors, que s'est-il passé dans le désert ? C'est une révolution, comme si la Thaïlande devenait finaliste de la prochaine Coupe du Monde de football, ou le Sri Lanka demi-finaliste de la prochaine Coupe du Monde de rugby. Alors, comme je vous le disais dans le sommaire de cette émission énervée, l'argent fait beaucoup, et le règlement fait le reste. Faisons un rapide voyage au pays de l'or noir, enfin plutôt pour vous présenter les finalistes du mondial organisé par le Qatar. Cette équipe est la plus improbable de tous, celles qui se sont présentées un pays lors, qui ont représenté un pays lors d'une compétition officielle dans un sport collectif. Ils sont extraordinaires, ces Qataris. Et rien, j'ai du mal à trouver le mot juste, ce ne sont pas des mercenaires. Oh non, peut-être pas. Mais non, parmi eux, nous avons un Français. Enfin, un ancien Français qui jure les grands dieux et Allah, être très grand, qui est toujours très grand. En effet, sous le soleil de plomb et les valises de billets verts, que cette équipe n'est pas une équipe de mercenaires, mais des mecs sympas qui sont tous convaincus de leur, que leur pays s'appelle maintenant le Qatar. Bon, pour représenter ce minuscule pays de l'Est arabique, ce sont donc, je vais vous donc présenter un peu l'équipe. Alors, il y avait Damjanovic, Markovic et Dojanovic. Ils sont un peu monténégrins. Bon, c'est de la faute à leurs imbéciles de parents. Il y avait des Bosniens aussi. Il y avait Memisevic et Saric. Un super joueur, entre parenthèses. Plus local, au sens vraiment très large du terme, il y avait Ben Ali, Assab, Allah, Mabrouk, Amdoum, Allah et Zakar. Alors ceux-là, ils venaient d'Égypte, de Syrie, de Tunisie. Un peu comme si l'équipe de France faisait jouer des Suédois et des Portugais. Mais après là, on va vraiment vers les exotiques. Capote, eh ben, il est cubain. C'est une nouvelle île qui est située juste dans la mer Rouge, sans doute. Et quant à l'Espagne et la France, elles faisaient honneur à leur sens de la patrie en rejoignant le groupe avec Fernandez et Rouané. Bon, une bande de potes convertis au pays qui a le plus gros PIB mondial, mais très désintéressés sans aucun doute. Même les supporters ont été achetés alors pour les joueurs et leurs entraîneurs espagnols. Bah, les primes étaient dérisoires. On parle cependant d'une broutille, je crois 125 000 euros par match gagné. Une Maserati et une petite villa en plus. Bon, écoutez, c'est bien. Mais ce cirque n'est pas que de la faute du pays organisateur. Après tout, si c'est permis de monter une équipe comme celle-là, bah, c'est bien de la faute de la Fédération internationale qui autorise la naturalisation des joueurs après une ridicule période de 3 années, sans convocation dans une autre équipe nationale. Alors la morale, dans le sport, cela fait longtemps que je ne la cherche plus. Et pour 2022, quelle équipe pour le pays organisateur ? Mon vilain petit doigt me dit qu'il va y avoir des Brésiliens en masse pour faire tourner la baballe de plus en plus carrée dans le désert. Aujourd'hui, ce sera l'invité. Alors, on est de retour ce samedi soir dans les studios de Divergence FM avec Dario Gonzalez.
C'est ça, tout à fait.
Alors, on va parler Andes. Alors, bon, j'étais ironique dans ma chronique, vous avez entendu le Balaval Carré, sur cette équipe du Qatar. On aura l'occasion de revenir en troisième partie d'émission sur le débriefing du championnat.
D'accord.
Mais là, on va plutôt parler de vous. Alors, d'abord, mes invités choisissent la musique souvent. Alors, qu'est-ce qu'on a entendu depuis le début de l'émission, là ? La première, c'était...
Alors, la première musique s'appelait Shadows. C'est d'une artiste américaine qui s'appelle Lindsey Stirling, qui joue ce qu'on appelle du violon hip-hop, en fait. C'est du violon un peu, voilà, un rythme électrisant.
C'était sympa en tout cas. Et la deuxième qu'on vient juste d'entendre?
Alors la deuxième s'appelait Feeling a Moment. C'est d'un groupe irlandais, il me semble, Feeder. Et c'est extrait de l'album Pushing the Senses.
Voilà, bah dites donc, l'arbitre, il connaît des choses déjà en musique. Hein, on va voir alors après sur le reste. Alors d'abord, en quelques mots, donc Dario, vous êtes au MUC.
C'est ça, tout à fait. Alors, je suis au MUC depuis maintenant presque 4 ans.
Alors à la fois joueur...
Oui, et arbitre.
Alors, joueur dans une équipe, vous évoluez à quel niveau de la compétition ? C'est régional ?
Alors, je suis au niveau pré-régional, en D'accord. fait. C'est-à-dire que ma poule vise la montée en régional l'année prochaine si elle termine première.
D'accord. Bon, c'est déjà un bon petit niveau quand même, ça joue la
oui,
balle.
Oui,
hein.
c'est...
La baballe est bien ronde, elle n'est pas carrée. Là.
Non, elle est bien ronde et ça tourne bien déjà à ce niveau-là.
Alors donc, le MUC, c'est une institution.
Oui, c'est Montpellier Université Club qui est un club omnisport qui existe depuis maintenant pas mal de temps.
Donc, 60 ans l'an prochain.
C'est ça.
Puisque je me suis renseigné, le MUC va fêter ses 60 ans. Ce sera en juin 2016.
Sacrée expérience de vie. Hein.
Et puis, il y a des équipes de tous les niveaux, de tous les âges aussi. Il ne faut pas s'imaginer que c'est juste universitaire.
C'est ça. Le nom du club, c'est Montpellier Université Club, mais on a effectivement des équipes un peu plus âgées et à plusieurs niveaux, départementales, régionales et prénationales aussi.
Prénationales. Et puis, il y a les petits. Il y a les tout petits. J'ai vu sur les photos du site du MUC, il y en a, ils ont moins de 7 ans.
C'est les catégories de jeunes.
Là, c'est vraiment les tout petits. Alors, Dario, donc, on a compris, vous êtes à la fois joueur, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, vous êtes arbitre. Alors, arbitre de hand, on va essayer de faire comprendre aux auditeurs. Alors, d'abord, vous n'êtes pas tout seul, je crois. Il n'y a pas un arbitre au hand.
C'est ça. En match, normalement, il y a deux arbitres qui ont les mêmes prérogatives, juste leur placement est différent par rapport au match, mais ils officient ensemble et ont les mêmes prérogatives et les mêmes pouvoirs sur les joueurs, on va dire, pour diriger le jeu.
Alors, vous êtes aussi... Alors, vous êtes étudiant quand même.
C'est ça. Je suis étudiant encore.
En droit. Bah voilà, un arbitre qui fait étudiant en droit, ça me semble tout à fait normal. Hein. Comme ça, vous faites et vous essayez de faire respecter la loi.
La loi du jeu, on va dire, c'est ça. Nous sommes les directeurs du jeu, c'est notre rôle de faire respecter le règlement.
Alors, on va vous faire quelques exemples de règlement, parce que souvent, les auditeurs, je suppose que vous n'êtes pas forcément des spécialistes de ce sport, le handball, mais vous regardez aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde, comme celui qui vient de se dérouler. Alors, il y a des trucs qu'on veut bien comprendre. Alors, déjà, il y a une espèce d'arc de cercle là, devant le but qui est situé à une... environ
je sais plus, à peu près 6 mètres, me semble, quelque chose comme ça en fait. Il y a la zone des 6 mètres et les petits pointillés devant qui forment les 9 mètres.
Voilà.
C'est le camp adverse en fait.
Alors, donc on n'a pas droit de rentrer dans cette zone.
C'est ça. À part le gardien de l'équipe qui est de ce côté du terrain, personne ne peut pénétrer dans la zone. Sinon, ça sera un renvoi qui sera sifflé pour le gardien.
D'accord. Et puis si, il y a les fautes. Alors, des fois, on ne comprend pas très bien les fautes. C'est parce qu'on défend en zone. C'est-à-dire qu'on est un peu dans la zone.
C'est ça. La défense en zone, en fait, c'est un franchissement de la zone par l'équipe qui défend. Un franchissement plus ou moins grand, et si jamais l'arbitre estime qu'une occasion de but a été gâchée à cause de franchissement, alors il peut accorder un pénalty à l'équipe qui attaque.
Voilà, c'est ce qu'on voit les jets là, aux 6 mètres, enfin un petit peu, aux 7 mètres.
7
mètres,
ça. Pardon.
Les jets aux 7 mètres, et là, ça veut dire qu'il n'y a plus qu'un joueur devant le gardien, comme
exactement.
Au foot.
Exactement, c'est ça, c'est comme au foot. Sauf qu'on est un peu plus proche du gardien, évidemment, parce que la cage est plus petite.
Et que le gardien, contrairement au foot, peut s'avancer.
Oui, il peut s'avancer. Il y a juste un petit pointillé devant lui qu'il n'a pas le droit de franchir.
D'accord, c'est pour ça qu'on voit ce qu'ils font. Ils bougent les bras là, pour essayer de perturber le tireur.
C'est ça, c'est comme au football en fait, on essaye par tous les moyens de déstabiliser le tireur.
Mais alors, les pénalties, dans un match que vous arbitrez, comme vous en arbitrez souvent, il y en a souvent, hein. c'est fréquent.
Oui, c'est beaucoup plus fréquent qu'au football, parce que même en dehors du franchissement de zone, à partir du moment où une occasion manifeste de but est gâchée, on doit normalement siffler pénalty.
Par exemple, je crois aussi que quand un joueur est en suspension dans l'air, on n'a pas le droit de pousser.
Non, c'est interdit. Sinon, après, on peut se faire punir par l'arbitre.
Alors, il y a les exclusions, vous allez nous en parler.
C'est ça. Il y a les exclusions de 2 minutes, en fait. C'est ce qu'on appelle les sanctions progressives. Au handball, l'échelle de sanctions, c'est pas la même, par exemple, qu'au football. On a le carton jaune. Le carton jaune indique ce qu'on ne veut pas voir pendant un match. Et si après, c'est répété, alors là, on peut mettre 2 minutes pour sortir justement un joueur pendant 2 minutes afin d'indiquer qu'on ne veut plus voir ce genre de geste.
Et ensuite, si ce même joueur est à nouveau exclu 2 fois de suite, je crois qu'il n'a pas droit à une
troisième. Trois fois de suite, en fait.
Alors là...
c'est la deuxième, il peut revenir sur le terrain. À la troisième, on devra sortir un carton rouge. Le joueur devra sortir. Il ne sera pas remplacé pendant 2 minutes. Après, un autre joueur pourra prendre sa place. Mais ça ne sera pas pas celui qui a été exclu, qui a été définitivement exclu.
Alors, contrairement au foot, quand il y a un rouge, on joue à 10. Là, au handball, heureusement, on peut revenir à jouer à 6 joueurs de champ
mais
et un gardien.
Mais on reste à 5 joueurs de champ tant que l'un des 2 minutes ne s'est pas écoulé.
Alors, 2 minutes, ça peut paraître aux auditeurs court, mais c'est très long au handball. Hein.
C'est très long, puisque la défense, en fait, devant la zone, est organisée de façon à ce que chaque joueur puisse prendre un attaquant individuellement, ou à la rigueur, venir aider un de ses équipiers si jamais il se fait déborder. Et là, être un de moins, forcément, c'est plus handicapant parce que les attaquants ont plus d'espace pour élargir le jeu et pour aller tirer derrière, forcément.
Oui, et c'est là souvent qu'on voit des buts qui sont marqués de l'aile, hein, parce qu'ils attirent les défenseurs d'un côté, puis ils font une passe à celui qui est démarqué, puisqu'il manque un joueur.
C'est ça, les ailiers, en fait, doivent écarter le jeu, et forcément, s'il manque un joueur, on ne peut plus tout couvrir la zone, donc après, ils ont la place d'aller tirer.
Alors voilà, c'est très intéressant toutes ces indications sur l'arbitrage. Alors vous arbitrez, vous, dans tout le département, hein,
c'est ça, je suis arbitre départemental, donc j'arbitre des matchs en général le week-end dans le département. Ça peut aller de Hague, de Verjacou ou vers Montpellier.
Et c'est une forme quand même qu'il faut savoir, c'est entre guillemets un peu professionnel quand même. Hein. C'est pas qu'amateur, vous êtes quand même défrayé.
Oui.
Voilà, vous gagnez pas comme les joueurs du Qatar.
Hein. Non, bien sûr que non.
Ça, non, c'est pas ça. Mais vous êtes quand même défrayé. Il y a un rôle professionnel de l'arbitre qui me semble très bien, moi, parce que sans ça, c'est toujours les contestations à n'en plus finir. Et je suppose que vous avez des fois des parties chaudes.
C'est ça, c'est ça le côté négatif, on va dire, c'est qu'il faut quand même gérer les esprits sur le terrain, que ce soit des joueurs ou des entraîneurs. Et des fois, quand le match est serré ou qu'il y a un gros enjeu, ça peut vite effectivement monter en température.
Et puis il y a le public.
En plus, le public.
Dans les petits villages, j'imagine que c'est un peu comme le foot dans les petits villages, ça doit chauffer.
Le public, en général, on essaie de pas en tenir compte, puisque c'est pas eux qui jouent, c'est pas eux qui construisent la victoire. Eux, ils encouragent leurs équipes. Bon, c'est normal, bien sûr, qu'ils s'énervent si leur équipe perd, mais c'est pas à eux de jouer. Donc nous, on essaie de se concentrer sur les joueurs. Et si jamais vraiment on est trop embêté, alors on peut demander aux responsables de salle de faire sortir un ou deux contestateurs si jamais ça se répète trop.
D'accord. Donc vous voyez ce rôle de l'arbitre, parce que c'est vrai que dans tous les sports collectifs, sans arbitre, il n'y a pas le sport.
Non, on peut pas jouer, parce que les arbitres sont avant tout pour faire respecter le jeu, pour protéger les joueurs. Donc si forcément il n'y a pas d'arbitre, on ne peut pas jouer.
Eh bien écoutez, si vous voulez bien, on va faire une petite pause musicale et puis on va se retrouver, on va reparler un peu avec vous du sport en général, du handball, mais on va parler aussi de la Coupe du Monde.
D'accord.
En ce temps-là, je vivais comme un oiseau sur la branche, devant les fils dessinés, je faisais la manche. C'était les copains d'abord et les premiers transistors. Sidney Bechet, petite fleur, les bleus sur le cœur. En ce temps-là, les trottoirs, c'était manif et guitare, même que c'est toujours comme ça. En ce temps-là, j'avais 20 ans, sur la télé en noir et blanc, on découvrait le rock'n'roll, Elvis Presley et les idoles, fauteuils cassés dans tous les music-halls. En ce temps-là, c'était Paris, c'était la guerre en Algérie, dans les bistrots de la banlieue nord, on n'était pas toujours d'accord, ira ou pas, d'accord ou pas d'accord. En ce temps-là de ta vie, tu rêvais d'avoir ton bac et de monter à Paris, t'inscrire à la fac. Et puis il y avait le mois de mai qui préparait ses pavés. C'est là qu'on s'est rencontrés, mouchoir sur le nez. Le monde était à refaire, et dans ta chambre à Nanterre, c'est justement ce qu'on a fait. En ce temps-là, j'avais 20 ans, et toi t'en avais presque autant. T'avais un parfum de verveine.
Alors, on vient d'écouter une chanson de
Pierre Bachelet.
Pierre Bachelet. Alors, c'est une génération d'avant. Là, cette chanson raconte l'histoire de, en fait, vers mai 68, on peut
c'est
dire.
Ça,
et
mai
des
68,
étudiants.
La guerre d'Algérie et
voilà,
tous les événements qui sont déroulés.
Génération de vos parents, probablement.
C'est ça, à peu près.
Puis à peu près. Allez, n'ayons pas peur de le dire, de la mienne, en gros. Hein, à peu près, en gros. Hein, on a la mienne. Alors, c'est marrant d'avoir choisi ça, parce que ça vous interpelle, c'est le fait que ça soit les études, d'avoir 20 ans.
Oui, c'est ça, ça raconte un peu l'histoire de la France. Et puis bon, étant donné que j'ai 21 ans aussi, c'est un peu ma tranche d'âge.
Voilà, tout à fait. Alors, il faut savoir aussi que vous avez, puisque je sais un petit peu quelque chose de vous plus personnel, vous avez un père mexicain.
C'est ça, tout à fait.
Alors, donc, vous êtes franco-mexicain, on peut dire.
Je suis de nationalité française, avec des origines mexicaines.
Alors ça, c'est intéressant. Au Mexique, on joue plutôt au football
et au baseball, essentiellement.
Baseball et puis la boxe.
Oui, c'est ça. Ce qu'on appelle la lucha libre, le catch, plutôt.
Ouais, et ça c'est que moi, j'avais eu l'occasion d'avoir fait un petit voyage au Mexique. Je me souviens, dans les journaux des quotidiens mexicains, il y a beaucoup de pages consacrées à la boxe, au baseball. C'est vraiment, on n'a pas forcément cette vision. Et puis au football, bien sûr.
C'est ça, le football, c'est le sport national au Mexique.
L'équipe nationale mexicaine est une magnifique équipe, vous êtes d'accord avec moi?
Ah oui, tout à fait, j'ai vu leur dernier parcours à la Coupe du Monde, j'étais très très content d'eux.
Nous, on avait eu la chance de les avoir en 1998, quand c'était la Coupe du Monde en France. Ils étaient venus à la Mosson, ils nous avaient fait un match extraordinaire contre l'Allemagne, qui ne l'avait battu qu'après prolongation, et encore tiré par les cheveux. Façon de parler, parce que je crois que le buteur allemand c'était Huberche et il n'avait pas de cheveux. Enfin voilà. Alors revenons maintenant au handball.
Allons-y.
Alors on a dit qu'on allait, donc on a parlé un petit peu d'arbitrage, on va faire un petit débriefing de cette Coupe du Monde. Alors d'abord, est-ce qu'il y a une équipe, à part le Qatar bien sûr, qui vous a vraiment surpris?
Déjà l'équipe de France, parce que je pensais pas qu'ils allaient réussir encore une fois à renouveler leur titre de champion du monde, ce que j'espérais bien sûr au fond de moi sûrement, mais j'avoue que je m'attendais peut-être pas vraiment à les voir arriver aussi loin. Et puis sinon, effectivement...
Ils sont assez incroyables de régularité. Quand
c'est ça, c'est une équipe qui même en transition, c'est-à-dire qu'ils changent de génération, ils arrivent à renouveler leurs titres mondiaux et je trouve ça, moi, absolument exceptionnel.
Alors, vous avez vu, il y a Fernandez qui va probablement arrêter.
C'est vrai, il a 37 ans, donc effectivement...
Voilà, il y a la génération des jeunes là, qui arrivent, et c'est fantastique, on dirait que c'est la même équipe. Moi, j'ai eu l'impression de revoir la même équipe il y a 3-4 ans. Ça se coulisse bien, hein, ça...
Effectivement, oui, la transition, je trouve, est très bien faite. Je ne sais pas si Claude Onesta va rester au poste de sélectionneur, mais s'il continue, franchement, je trouve qu'il a fait un très bon travail de transition entre le jeune Karabatic, l'intégration de Cyril Dumoulin... Ce genre de joueur qui franchement prend bien sa place au sein de l'équipe et qui arrive à très bien
Gribilé aussi, hein, c'est ça le joueur de Montpellier, là, comment on l'appelle, Gribil, non? Genre, je ne sais plus comment on le prononce, excusez-moi. Hein. Mais ce n'est pas grave. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent et qui portent aussi. Hein.
C'est ça, Valentin Porte.
Et là, Valentin Porte. Ce sont des joueurs qui arrivent dans cette équipe et on dirait qu'ils ont déjà joué dans cette équipe.
C'est vrai que c'est assez incroyable de voir ça. Après, ils évoluent dans le championnat de France qui est un bon championnat. Ils ont côtoyé ces joueurs... à un moment de leur carrière, donc peut-être qu'ils ont eu un peu d'influence sur eux, mais c'est vrai qu'en tout cas, ils font un très bon handball, je trouve.
Alors, alors, avant de revenir aux autres équipes, juste, je vous avais dit que le championnat de France était un très beau championnat, c'est vrai, mais la Mecque, si j'ose dire, parce qu'on n'était pas loin de la Mecque au Qatar, la Mecque de ce sport, c'est l'Allemagne.
Oui, effectivement.
C'est le championnat de la Bundesliga handball, c'est formidable.
Oui, c'est ça, les équipes de Kiel et toutes ces équipes-là.
D'Hambourg, etc. Et quand il y a un match là-bas, c'est 9000 places, 10000, 12000, 15000 à chaque fois. Hein.
Oui, c'est ça, les stades sont pleins. On aime beaucoup ça, le handball en Allemagne, c'est vrai.
Alors, notre Nicolas Karabatic était passé par Kiel avant revenir à Montpellier. Et maintenant, il joue à Barcelone. Barcelone, championnat espagnol, c'est remarquable aussi. Hein.
Tout comme Thierry Omeyer ou ce genre de joueur. Effectivement, est aussi passé par Kiel.
Voilà. Alors, donc, l'Allemagne, c'est... Alors, parlons, puisqu'on a parlé du championnat allemand, parlons de la déception, cette équipe d'Allemagne. Parce que l'équipe d'Allemagne, d'abord, elle n'était pas qualifiée, elle a été repêchée. Hein.
À la place de l'Australie, il me semble.
Oui, parce que c'était encore la fédération qui avait dit que l'Australie ne fait pas partie de la fédération internationale.
L'IHF n'avait pas reconnu, il me semble, la confédération continentale océanique, c'est ça. Et ils ont... exclut l'Australie et en lieu et place, ils ont mis l'Allemagne.
C'est quand même un peu bizarre certains règlements dans cette fédération internationale de handball. Mais enfin bon, l'Allemagne était là, donc un des favoris.
Oui, effectivement. Parce que...
Et elle se fait sortir.
Par le Qatar.
Par le Qatar.
Justement.
Alors le Qatar, maintenant, après avoir un peu ironisé sur les mercenaires, c'était quand même une sacrée équipe, cette équipe de Qatar.
C'est vrai que je trouve, moi, personnellement, que l'entraîneur Valero Rivera a su construire un très bon collectif avec des joueurs qui venaient de tous les horizons.
On l'a vu, oui.
Dans un sens, moi, je trouve que c'est déjà assez fort ce qu'il a fait.
Et bien, c'était un super entraîneur, ça c'est sûr. Hein. C'était celui qui était, pour ceux qui ne le savent pas, c'était lui qui était champion du monde au championnat du monde précédent avec l'Espagne. C'était l'entraîneur de l'équipe d'Espagne. Champion du monde avant donc ces championnats du monde aujourd'hui. Alors l'équipe d'Espagne, qui égale à elle-même, on peut dire.
C'est ça.
Mais elle n'a pas de chance, l'équipe d'Exane. Elle tombe sur une équipe de France toujours transcendée. Hein.
Oui, même si c'est vrai qu'ils ont fait un match exceptionnel. Les deux équipes ont livré un très beau match. Pour moi, je pense que c'était le plus beau match.
Les demi-finales. Hein.
Le plus beau match du dernier carré. Donc, c'est vrai qu'ils ont fait quand même un très bon parcours. Leur gardien, Gonzalo Pérez de Vargas, a fait beaucoup d'arrêts ce jour-là.
Beaucoup plus jeune comme hier, il faut le savoir.
Ça, hein. Il a 23, je crois, ou 24. Ouais. C'est vrai qu'il est
très,
très
jeune gardien. Hein. Pour être gardien, il faut être plutôt plus âgé.
Oui, ça, mais c'est quand même, je trouve, le digne successeur de David Barouf.
Voilà. Alors, donc, on a une très belle génération là aussi avec l'Espagne. Qui n'a pas beaucoup de chance, puisque aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde et aux Championnats d'Europe, ils sont tombés sur l'équipe de France.
C'est ça, et au final, ils se font sortir. Là, ils ont terminé quatrième, il me semble, cette Coupe du Monde. Donc,
Oh là, ils étaient un peu démotivés, peut-être, après cette... Oui. Mais enfin, quand même, belle performance de la Pologne, qui termine
la Pologne qui
sur
gagne,
le podium. Hein.
Qui gagne le match pour la troisième place, d'un but, certes, mais qui a effectivement joué une très belle partie contre l'Espagne.
La plupart des joueurs polonais jouent en Allemagne.
C'est ça, d'ailleurs.
Ils sont presque tous dans le championnat allemand. Bon, donc Pologne, belle surprise. Moi, je dirais une petite déception, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, avec les Suédois. Les Suédois m'ont un peu déçu, moi, je les voyais mieux que ça. Hein.
Oui, c'est vrai qu'on connaît le passé de la Suède au handball, qu'ils ont eu des générations exceptionnelles, qui ont été les maîtres, on va dire, du handball mondial.
Avec les Roumains.
Avec les Roumains pendant le XXe siècle, donc... C'est vrai qu'on aurait peut-être pu attendre un petit peu plus d'eux, effectivement.
Par contre, ils ont fait un bon match contre la France, quand même. Hein. Oui. La France ne gagne contre la Suède que tout à fait à la fin, vous vous souvenez de ça. Hein. C'était 27-25 ou 29-27, je me souviens.
27-25, il me semble.
Oui, ouais, quelque chose comme ça, donc que de deux buts. Et puis, ils avaient mené tout le match, les Suédois. Hein.
Oui,
c'est
oui.
qu'à la fin que les Français...
Les Français ont pu prendre le dessus, c'est vrai.
Et puis, il y a notre petite bête noire à nous, l'Islande.
L'Islande, effectivement, qu'on a, avec qui on a un peu des sueurs froides, on va dire.
Ah oui, mais
début.
C'est une très bonne équipe, hein,
oui,
l'Islande.
Oui, oui.
Alors là, c'est le sport national en Islande. Hein.
Je savais pas, mais...
Le handball, d'accord. C'est le premier sport islandais. Faut dire que c'est une toute petite île, l'Islande. Ils n'ont pas grand-chose à faire. On ne peut pas vraiment faire du ski. Hein. C'est tout petit, c'est des volcaniques. Donc, ils jouent au hand. Et c'est un sport qui est vraiment hyper, hyper médiatisé, reconnu. Et l'équipe d'Islande, qui est pour un tout petit pays comme ça, est remarquable aussi. Hein.
Oui,
franchement,
oui, oui.
Il y a des très bons joueurs. On en voit dans le championnat de France, d'ailleurs. Il y en a qui sont dans le championnat de France, qui sont très, très bons. Alors, d'autres surprises, pas vraiment. Là, on revient. Il n'y a pas eu vraiment de cataclysme à part cette équipe du Qatar.
C'est ça, pour moi, c'était vraiment la plus grosse surprise à Coupe du Monde, c'était le Qatar. Effectivement, qu'on ne les attendait peut-être pas aussi haut au début de la compétition.
C'est-à-dire, comme vous disiez, l'entraîneur espagnol a réussi à faire on va dire, un melting pot, un patchwork de joueurs. Une vraie équipe. Moi, la finale, j'ai trouvé que c'était vraiment une finale très accrochée et difficile hein, pour l'équipe de France. Hein.
Même à un moment, le Qatar était à moins 1, ils auraient pu égaliser si, au meilleur, ne met pas la balle sur le poteau. Hein.
Ouais. Et ensuite, ils ont des très bons gardiens aussi, cette équipe.
Oui,
hein.
Dani Saric a fait sa Coupe du Monde.
Il joue à Barcelone.
C'est ça, il joue à Barcelone.
Comme le gardien espagnol, c'est les deux gardiens de Barcelone, hein, faut comprendre. Bon, bah, écoutez, cette émission va très vite parce qu'on arrive à sa fin, figurez-vous, ça va vite. Hein.
Effectivement, c'est vrai que ça va vite, 30 minutes.
On n'a pas eu le temps de parler de tout ce que vous auriez peut-être voulu dire, mais bon, qu'est-ce qui vous fait, moi ce qui m'intéresse juste en un mot, c'est cette motivation pour devenir arbitre. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça?
Ben, je pense que c'est ma passion pour le handball, parce que je vais être honnête, quand j'ai commencé le handball, c'était pas vraiment ma passion, et quand j'ai découvert un peu les beaux aspects de ce sport, de voir ce que c'est que le beau jeu, je me suis dit que j'avais envie d'être au service de ce jeu, de permettre à les équipes voilà, de construire des beaux matchs et d'articuler des belles victoires.
Parce que ce qui est bien avec un arbitre, c'est quand on ne le voit pas.
C'est ça, ben, l'essence d'un arbitre justement, c'est de pas se faire voir, parce que c'est les arbitres sont juste là pour diriger le jeu. C'est les joueurs qui sont les héros, on va dire, qui construisent leur victoire. Nous, on est là pour leur permettre de construire cette victoire, pas pour justement influencer à la fin.
Mais alors, merci beaucoup Dario d'être venu à Divergence FM, nous parler de votre passion pour l'arbitrage et le handball.
Ah ben merci à vous.
Voilà, et puis si vous avez des informations à nous faire parvenir, vous n'hésitez pas de temps en temps à nous les faire parvenir.
D'accord.
Cette émission est terminée, ben, la semaine prochaine, on va parler rugby, parce que là, le tournoi des Six Nations commence et je vais avoir un Gallois avec moi.
Bonsoir à toutes et à tous.
L'émission sportive de Divergence FM, c'est le samedi de 19h30 à 20h en 30. 30 minutes chrono.